que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, lobo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Recoñecémonos todas mulleres, no sentir do noso xa, oprimidas as mulleres, queremonos.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, je reviens d'un week-end très studieux grâce à l'Assemblée des femmes qui organise chaque année une université féministe de haut niveau afin d'irriguer le mouvement des femmes et l'ensemble de la société. Donc ça s'est passé à Marseille et il y avait donc de nombreuses tables rondes qui ont permis de faire le point sur les révolutions et les contre-révolutions entraînées par le mouvement de la libération de la parole des femmes face aux violences sexuelles et sexistes qu'elles subissent. Je dirais face aux violences machistes, je préfère dire comme ça. Et donc il y a eu 2 jours de débat ça a permis de faire le point sur les résistances au mouvement MeToo, sur les stratégies de contrôle du corps des femmes, la marchandisation de la sexualité. Il y avait aussi sur les inégalités économiques, patrimoniales, c'était très intéressant, et leur coût collectif. Et il y avait une table ronde dont je vais vous parler maintenant aussi, avec des résistantes afghanes, iraniennes et ouïghours. Le thème était « Comment les dictateurs font de l'asservissement des femmes une arme ?» Et ensuite, il y avait une autre table ronde, enfin il y en avait beaucoup, donc ça a duré tout le week-end, sur la double peine qui pèse sur les mères monoparentales. Voilà, et j'ai pu rencontrer aussi donc Anne-Cécile Mailfer, présidente de la Fondation des femmes, qui était présente. Il y avait Céline Pic, lanceuse d'alerte sur l'industrie pornographique. Il y avait Lucille Pétavin, la première historienne qui a chiffré le coût de la virilité. C'était très, très intéressant. Donc, j'ai pu enregistrer un petit peu de son que je diffuserai au fur et à mesure des émissions. Là, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire écouter Shala Shafik. C'était par rapport à la table ronde « L'asservissement des femmes, armes des dictateurs, la parole aux résistantes ». Donc Shala Shafik, c'est une sociologue écrivaine pour la laïcité, qui lutte contre l'islamisme, etc. et qui est réfugiée iranienne. Et donc elle nous a parlé de la révolution iranienne, la révolution des femmes qui entraîne derrière elle la révolution de tous les Iraniens. Alors pour commencer, je vais revenir sur ce vaste mouvement de protestation, donc depuis la mort d'une jeune femme interpellée par la police des mœurs pour n'avoir pas positionné son foulard comme l'exige le strict code vestimentaire de la République islamique. Des émeutes se sont étendues dans le pays et Donc, ce sont des émeutes qui ont éclaté. Enfin, il y a déjà eu, faut rappeler qu'en fait, ce ne sont pas les premières émeutes qui éclatent. En fait, il y a eu de nombreuses émeutes déjà. Et d'ailleurs, Shala Shafik l'a rappelé, qui ont éclaté ces dernières années et qui s'en prennent à l'essence même du régime. De quoi faire plier la dictature ? Eh bien, c'est ce que nous espérons très fort, évidemment. Une jeune femme qui virevolte dans la rue esquisse un pas de danse avant de jeter son voile dans un brasier, suivie par d'autres sous les applaudissements de la foule. C'est l'une des images virales impressionnantes de courage qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Des femmes qui se filment en train de se couper des mèches de cheveux en signe de protestation. Des femmes même de tous les âges, têtes nues, qui agitent leur voile. Peut-être certaines femmes ont-elles déjà participé aux premières manifs en opposition au port du voile au moment de la révolution en islamique en 1979, car ce n'est pas la première fois que les femmes se battent contre le régime iranien. Mais aujourd'hui, la contestation semble prendre une toute autre ampleur. Les hommes les ont rejointes et le mouvement transcende les classes sociales. La crise politique s'étend à toutes les villes du pays, au nord, au sud, et s'oppose à un système dans son ensemble. Ce sont tous les quartiers, toutes les classes sociales qui se mobilisent. C'est ce que souligne Farid Vahid, qui est directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. La révolte s'est propagée dans une trentaine de villes, dont la capitale Téhéran, soit un mouvement beaucoup plus important que les précédentes manifestations consécutives à la hausse du prix de l'essence en 2019. Et tous ces manifestants protestent au péril de leur vie. Ils risquent la prison, la peine de mort ou que la police leur tire dessus. N'importe quelle personne qui sort dans la rue sait qu'elle peut ne pas rentrer à la maison et malgré tout, elle continue à le faire. Il faut prendre conscience de ça. Donc il y a eu de nombreux manifestantes et manifestants qui ont été tués, malheureusement. Donc j'ai pas le chiffre exact. Au 28 septembre, j'avais 57 manifestants qui ont été tués. Depuis, il y a certainement eu de nombreuses autres. Donc l'étincelle, rappelons, donc ce fut la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme de 22 ans qui a été interpellée le 13 septembre à Téhéran par la police des mœurs car elle aurait mal mis son voile. Dans les premières heures de sa détention, elle est tombée dans le coma puis elle est décédée 3 jours plus tard. Pour se disculper de tout mauvais traitement, le régime a diffusé une vidéo où on la voit s'effondrer dans une salle de tribunal et il laisse entendre qu'elle avait un problème cardiaque. Mensonge, dénoncent plusieurs activistes. Cette vidéo ne prouve rien. Plusieurs témoignages attestent du fait qu'elle a été battue au moment de son arrestation dans la voiture de police. Quand bien même elle n'aurait pas été battue, son arrestation est déjà suffisamment révoltante. Son nom est devenu le cri de ralliement de toute une population qui aspire à la liberté. Dès 1979, donc, régulièrement, les femmes se sont mobilisées en Iran, comme nous le rappelle justement l'écrivaine et sociologue iranienne Shala Shafik. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire écouter son intervention donc, lors de cette université de l'Assemblée des femmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, je compléterai.
Tu es écrivaine sociologue iranienne. En 83, tu as dû fuir le régime de Khomeini et tu as trouvé l'exil en France. Tu as publié de différents ouvrages très nombreux sur la dimension totalitaire et totalitariste de l'islamisme. Et je pense bien sûr, même si ça date, à Islam politique, sexe et genre, avec cette dimension genre. Et au nouvel homme féministe, islamiste, pardon, la prison politique en Iran. Tu écris aussi des textes littéraires avec ce livre récent, extrêmement prémonitoire, j'ai envie de dire, qui s'appelle « Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir ». Et je me permets de rajouter que tu es une experte de la laïcité, que tu as siégé au Haut Conseil à l'égalité. Ça aussi, Daniel, c'était notre fierté d'être avec toi pendant ces années au Haut Conseil. Shala, si tu veux bien, parlons de l'Iran. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc on a vu ce soulèvement, on regarde avec admiration mais distance. Cette révolte, à défaut de parler de révolution, est-ce que tu peux nous parler avant la mort de Mahsa Amini, ce qui se passait avec les patrouilles ces patrouilles de la Ligue de la Vertu, là, les Gasht et Ershad, tu me pardonneras mon accent, et l'arrivée au pouvoir d'Ebrahim Raïssi, que notre président a, avec qui notre président a dialogué il y a quelques semaines à l'ONU.
Tout d'abord, bonjour et merci à l'Université de l'Assemblée des femmes de m'avoir donné ce temps de parole. La question que tu poses, ça nous renvoie quand même à plus de 40 décennies de la révolution de 1979 qui a amené la République islamique au pouvoir. Donc les manifestations actuelles nous renvoient dans ce passé, à une première manifestation des femmes en 1979 contre le voile obligatoire, et qui il y avait des milliers de femmes dans les rues de Téhéran et dans les grandes villes iraniennes de dire nous ne voulons pas le voile obligatoire, nous ne voulons pas, puisque les gens, les islamistes de l'époque, puisque à l'époque le mot islamiste n'existait pas. C'était après l'expérience iranienne, afghane et aussi algérienne que dans les domaines de recherche, le mot islamisme a su quelque part résumer la chose. Ceci étant, on parlait de fondamentalisme, d'intégrisme, toutes ces histoires-là, mais on a mis du temps pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une religion, d'une pratique religieuse, mais d'une idéologie. Et effectivement, cette idéologie de l'islamisme qui codifie l'islam comme un programme idéologique et politique a fait ses effets en Afghanistan, en Algérie et en Iran. Donc les Iraniens, ça veut dire les Iraniens, le pouvoir islamiste en Iran, puisque les Iraniens maintenant nous disent toujours, et nous disent, Shala, il faut pas, quand on parle de l'Iran, ce n'est pas la même chose que la République islamique, bien sûr. Mais dans le langage de politique internationale, on dit toujours l'Iran a voulu que. C'est une expression, mais peut-être qu'il faut revenir sur ce genre d'expression aussi. Donc la République islamique a mis en place dès le premier temps, c'est-à-dire une des mesures que Khomeini a lancé à l'époque, c'était l'appel au voile dans les lieux de travail. Et ça, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas quelque chose qui était un caprice au moment d'un religieux qui voulait se faire montrer. Non, c'était, on l'a compris après, c'était toute une stratégie. Et le voile était l'étendard de tout un système politique de pouvoir et dont le socle, c'est le sexisme, comme par exemple pour le stalinisme, c'est la classe sociale, pour le fascisme hitlérien, c'est la race, mais pour l'islamisme, c'est le sexe. Voilà. Donc quand je dis le sexe, c'est pas que les femmes. Et encore une fois, l'expérience iranienne, elle est là pour nous montrer que les femmes, la répression des femmes, l'oppression des femmes est au centre de ce pouvoir islamiste, mais il y a une hiérarchie de pouvoir qui, à la fin, domine toute la société, et les hommes aussi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans les rues, il y a aussi des jeunes hommes et des hommes moins jeunes qui donnent leur sang pour la liberté. C'est un mouvement mixte. Mais au centre de ce mouvement, il y a la question des femmes, et ce n'est pas une question que des femmes. C'est-à-dire, et moi je pense que généralement la question des femmes se met au centre, ça veut dire que c'est au centre du modèle social et politique dans tous les pays du monde. C'est la question de rapports sociaux de sexe, ou ce qu'on appelle du genre. Le genre, comme la définition la plus simple, c'est l'organisation politique du sexe. Voilà. En résumé, pour ne pas se compliquer avec toutes ces histoires actuelles, si dans le milieu de la recherche, on dit le genre, c'est l'organisation politique du sexe. Voilà. Et si on l'a, même dans l'acceptation de ce sens-là, Ce qui fait que la question du voile devient un étendard, c'est ça. C'est que l'organisation politique du sexe chez l'islamisme fait un pouvoir fascisant qui réprime tout le monde à la fin, finalement. Alors, dans cette histoire de 1979, quand les femmes étaient dans la rue, il y a eu pas mal de groupes, y compris des groupes de gauche, des libéraux, etc. Ils ont dit que c'est secondaire aux femmes, rentrez chez vous, c'est secondaire, c'est pas la question, c'est l'enjeu anti-impérialiste, c'est la révolution, etc. Et tout le monde. En fait, ça a été cassé le mouvement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La différence est très importante. Et le voile n'est pas tout de suite devenu obligatoire à cause de cette résistance. Khomeini a pris un moment de silence, mais elle est revenue par la force, parce que les femmes ont été reculées, les mouvements sociaux ont pensé que la question des femmes était secondaire. Donc finalement, le voile est devenu obligatoire partout. C'était au lieu de travail, les lieux de travail, ça a été visé ça. C'est devenu obligatoire partout avec cette obligation. Ce n'est pas seulement un simple tissu qui couvre la tête. Il y a eu tout un système de discrimination qui a été établi envers les femmes, mais aussi envers toutes les discriminations sociales, discrimination des minorités, discrimination, voilà, tout simplement. Alors, la conduite, la gâchette Ershad, ça veut dire la patrouille de ou la police de la conduite morale, c'est dans le sens un peu plus proche de la traduction en personne, c'est a été mise en place avec cette obligation totale, et c'était pour soi-disant contrôler le voile, mais en même temps c'est devenu un outil, un dispositif pour surveiller toute la population, puisque ces patrouilles sont partout, dans les carrefours, ailleurs, dans les villes, dans les associés. Il faut ajouter que les islamistes ont mis en place les comités spéciaux dans tous les lieux de travail, au nom, voilà, l'association islamique des jeunes, association islamique des artistes, association islamique de ça et de ci. Parce que, il ne faut pas oublier, je termine par là, que l'islamisme est arrivé au pouvoir dans un pays où il y avait quand même 30% à l'université, 30% des étudiants étaient des femmes. C'était une société où les femmes étaient présentes. Elles travaillaient, il y avait une présence massive de femmes et très visible. Et là, le retour au voile, c'était une stratégie de conquérir cette force et de l'orienter dans le sens de la politique dominante. Ça veut dire utiliser les femmes ou réorienter les femmes dans la construction de cette société islamique qui n'a accouché que de la corruption et de la terreur. Voilà, c'est tous ensemble, c'est-à-dire ces patrouilles n'est pas que des patrouilles qui vont faire des petits conseils ou même la répression. La question est beaucoup plus profonde que ça. Ça renvoie à tout un système de contrôle et de surveillance qui le fait au nom de morale et au nom le voile obligatoire est censé représenter le drapeau de cet ordre moral qui finalement est un ordre fascisant. Voilà.
Par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, il y a cette réalité, il y a ce slogan, Jinjian Azadi, femme, vie, liberté. Et je pense en particulier à l'Afghanistan quand je dis ça, mais c'est sans doute vrai aussi pour chez toi, Dinour. Mais du coup, quand on dit le symbole du voile, non, en fait, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est beaucoup plus que ça, c'est un socle. Et du coup, on a l'impression qu'aujourd'hui, les femmes ont lancé cette révolte suite à ce meurtre, énième meurtre, le vase est plein, on sort dans la rue. On a l'impression que les Iraniens ont compris ce que, par exemple, en France, notre population n'a pas encore compris, c'est-à-dire ce que tu viens d'expliquer avec les femmes au soleil, le soleil au cœur, c'est-à-dire que quand on n'est pas féministe, en fait, c'est une société qui n'a pas avancé, qui n'est pas terminée, quoi, quelque part, et qui ne peut pas, éclore. Et on a l'impression que la population iranienne, les jeunes Iraniens, ont pigé ce truc-là aujourd'hui. Et du coup, est-ce que, et là je pense à tous ces pays-là, est-ce que du coup, cette mainmise, cet asservissement du corps des femmes en général, n'est pas en train de devenir, avec cet exemple iranien, et en espérant, je te vois faire comme ça, en espérant que que ça déborde ailleurs, et on voit qu'il y a un paquet de pays qui flippent avec ce qui se passe en ce moment en Iran, est-ce que ce n'est pas en train de devenir le talon d'Achille ? C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est une répression, et en fait, à la sortie, c'est le talon d'Achille, et c'est les femmes qui vont faire que ce régime va se casser la figure, quoi, en fait.
Non, mais si tu veux, le slogan « Femme, vie, liberté », effectivement, la signification est très profonde. Pourquoi femme ? Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont dans la rue et tout. Et pourquoi ces hommes et ces femmes ensemble pour femme et vie, liberté ? Parce que les femmes, la condition des femmes est le miroir de la condition de la société tout entière et qui, dialectiquement, c'est ça. Moi, je pense que généralement, c'est ça. Même en France, c'est ça. Mais en Iran, ça, c'est très visible. En Afghanistan, c'est très visible. Et en Algérie, c'est très visible, puisque c'est des régimes où la misogynie, ça fait partie de l'idéologie dominante et affichée comme telle. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas affiché comme tel. Par exemple, on pourrait le voir, la question du sexisme a des formes beaucoup plus compliquées avec les avancées des droits humains, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, dans les pays ici, en France, il y a eu des avancées, on ne peut pas les ignorer non plus, puisqu'il y a un discours qu'on dit, oui, partout c'est la même chose. Non, partout ce n'est pas la même chose. Mais en tout cas, il y a aussi des points communs dans la situation des femmes du monde entier. Et parmi ces points communs, c'est qu'il y a quand même la question des femmes n'est pas la question des femmes. C'est la question du modèle social tout entier. Mais dans ce modèle social que l'islamisme voudrait imposer, la question de misogynie et la question de la discrimination sexiste, la sacralisation des violences, puisque partout il y a des discriminations, partout il y a des violences sexistes. Mais ici, c'est sacralisé au nom de divin. Au nom d'une religion, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que j'espère clairement, mais en tout cas, on n'aura pas le temps d'aborder tout ça ici. Dans mon site, puisque à faute d'avoir des livres ici, dans les sites et dans le Facebook et tout, il y a quand même toute une archive de mes écrits. C'est pas des choses interactives, mais c'est comme une archive. Vous pouvez trouver des entretiens, des articles, etc. Et finalement, dans cette période, j'ai pas mal écrit aussi. Avec des différentes visions, puisque c'est une question très complexe. Si tu veux, moi, j'ai horreur de la simplification qui nous ramène au fait qu'aujourd'hui en France, on entend des choses inimaginables, même de la part des chercheurs, qui viennent dire, qui te disent des spécialistes de l'Iran, et qui viennent dire, par exemple, Gina a été tuée parce qu'elle est kurde, donc c'est intersectionnel. C'est vraiment des raccourcis complètement inacceptable. Ça veut dire qu'il y a eu après les autres, les Nika, les autres qui n'ont pas été kurdes. Donc bien sûr que Gina a été kurde, bien sûr que les Kurdes et les autres minorités en Iran ou les autres peuples sont main dans la main dans la rue, mais la conduite, la police de morale, ils ne pouvaient pas identifier la personne. Gina, c'est une femme comme les autres. Si vous regardez son profil, elle chante, la chanteuse en exil actuellement, Gougouch par exemple, qui est très aimée, elle chante, elle danse avec la voix, c'est vrai ou non? Donc il n'y a pas, ça veut dire, elle parle personne. Elle chante, mais tout cela pour se faire mousser, pour dire que voilà, je suis à la mode, je parle intersectionnel, etc., etc., on en a vraiment ras-le-bol. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez... Puisque le concept doit servir une cause, une lutte, une réflexion. La réflexion et l'action vont ensemble. C'est pourquoi je pense que si on ne réfléchit pas, nous avons fait nous-mêmes, moi j'étais une étudiante très jeune à l'époque de la Révolution, mais je n'ai pas réfléchi et j'ai fait des grandes erreurs. Ça veut dire en fait, on n'a pas compris l'islamisme. Maintenant, aujourd'hui, avec les concepts, on essaie encore une fois de faire obstacle à cette compréhension, c'est insupportable. En plus, au nom de recherche, au nom de l'université, au nom de tout ça, quand est-ce qu'on va finir avec cette histoire? Comme, pour donner un autre exemple, le concept de féminisme islamique n'a pas été créé en Iran, n'a pas été créé en Algérie, n'a pas été créé en Afghanistan, ça a été créé dans les universités occidentales. Par les chercheurs de genre. Mais c'est quoi ? qu'est-ce que ça a donné? Pourquoi on ne fait pas un bilan? Et pourquoi quand on parle de féminisme français, excusez-moi, pourquoi quand on parle de féminisme français, on ne dit pas le féminisme catholique? Pourquoi quand on arrive en Iran, on arrive en Algérie, on arrive en Turquie, on dit le féminisme islamique? Vous voulez, ces chercheurs, soi-disant, faire de l'islam une identité globale et globalisante, on met tout dedans, l'avenir, le passé, le présent et l'avenir, c'est du totalitarisme. C'est exactement ce que dit Hannah Arendt, c'est des idéologies qui font d'une idée, d'une logique, idéologie, d'une idée, une logique qui totale et totalise l'avenir, le présent, le passé. C'est exactement ça qui s'est fait au nom de recherche. Mais comment on pourrait, et il n'y a jamais un débat sérieux, puisque, voilà, c'est ce que je disais hier à mes amis, on a envie de parler de ces femmes, on dit seulement, venez parler des luttes. Non, non. Venez parler aussi de ce que ces luttes apportent à la réflexion humaine. Ce qui apporte à la France, et la France apporte en Iran, et tout ce pont qui a été, et l'Europe ou les autres. Si on regarde dans l'esprit de la solidarité comme charité, on regarde ces femmes, elles sont les pauvres, elles sont en train de lutter, il faut que leur voix soit là. Non, je ne suis pas d'accord. Les Iraniens n'ont pas attendu. Et aujourd'hui même, de toute façon, ils donnent leur sang pour cela. Et ça, c'est depuis 40 ans que ça continue. Maintenant, comme tu dis, la base est pleine. Mais pendant ces 40 ans, non seulement il n'y a pas eu vraiment un vrai... Ça veut dire, si, il y a eu des bilans, il y a eu des écrits, il y a eu des choses. Mais je pense que le milieu qui se dit féministe, il faut faire de sien ces choses-là. Et il faut aller dans ce débat. Comme on faisait avec Mme Bousquet, vous vous rappelez, dans le que je salue ici, je suis très contente de vous retrouver. De toute façon, on a fait ce débat avec vous aussi au conseil. Voilà, pendant le temps où on était ensemble. Mais moi, je pense que c'est ça qui est le fond de problème. C'est de ne pas faire l'Orient, l'Occident, les autres, etc. Les choses internationales sont au pied de nos immeubles en France. Moi, je travaille sur l'interculturel. Je les vois tous les jours. Ce qui s'est passé en Iran, je les vois tous les jours ici avec d'autres. Non, ce n'est pas la même chose. Ici, la France, ce n'est pas l'Iran. On a des avancées, etc. Mais le phénomène dans sa compréhension, le phénomène islamiste, c'est pas en Algérie, après où il y a parlé, c'est en Afghanistan, avec des différentes configurations, et en France, il y a de l'islamisme. Il existe, sauf si vous dites non, Inch'Allah, tu te trompes, etc. Et à l'époque où je finis par là, en 90, quand je parlais de ça, on me disait, tu es traumatisé par l'expérience iranienne et par l'expérience algérienne, tu nous ramènes, c'est de trauma. Oui, bien sûr, c'était de trauma pour moi, que je l'ai vécu très mal, l'exil et tout ça, mais j'en ai fait une question pour réfléchir, pour écrire, pour militer. C'est un trauma, bien sûr, le point de départ est un trauma, mais vous ne pouvez pas fermer les yeux sur les difficultés, sur les problèmes sociaux avec ce mot-là. Et c'était ça qui a été fait. Après, c'est l'Algérie qui est arrivée, après c'est Daesh qui est arrivé, après c'est l'autre qui est arrivé, et aujourd'hui, oui, si l'Iran arrive à réussir, comme la révolution des islamistes en 1979 a exporté quand même pas mal de choses, puisqu'ils ont créé un langage politique moderne. C'est ça qu'il faut comprendre. C'était un langage politique très moderne. République islamique, révolution islamique. C'est pas l'État comme Daesh, etc. Donc aujourd'hui, si ça tombe, il y aura bien sûr cette expérience au Moyen-Orient et dans le monde entier. Ça va être très important. Et c'est pourquoi l'ignorance des politiques occidentales et leur complicité, qui est très très claire, j'ai mis l'exemple, mais ce n'est pas ici, là, c'est très dangereux, pas seulement pour les Iraniens, mais aussi pour l'humanité tout entière. Bravo. Et c'est la même chose pour Caliban qui a été abandonné lâchement.
On va y revenir dessus,
pour l'Afghanistan qui a été abandonné aux mains de talibans lâchement.
Donc c'était Shala Shafiq. Je rappelle, donc sociologue et écrivaine iranienne, membre du Parlement des écrivaines francophones. Le modérateur qui posait les questions, donc, c'était Pierre-Yves Ginet, qui est photojournaliste, co-rédacteur en chef d'une revue féministe qui s'appelle Femmes ici et ailleurs, revue internationale et universaliste. Comme l'a rappelé Shala, les droits des femmes sont universels. Donc, voilà, juste pour compléter, alors elle a rappelé que les vagues de protestation, il y en a eu beaucoup. Et donc maintenant, l'intervalle entre les différentes vagues se réduit. Et c'est la particularité de cette décennie, c'est ce qu'elle dit aussi. Il y a d'abord eu le phénomène mauvais voile, des femmes qui faisaient exprès de mal le porter, en laissant apparaître des cheveux par exemple. Puis il y a eu des campagnes mercredi blanc, où des femmes portaient un voile blanc chaque mercredi en signe de protestation. C'est un mouvement qui a été initié par des activistes à l'extérieur du pays. Il y a beaucoup de parenthèses de femmes de culture musulmane qui luttent contre le voilement, contre l'islamisme, etc. Il y a un mouvement qui s'appelle Let's Talk aussi, parce qu'on ne veut pas les écouter, donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc là, donc en Iran, mercredi blanc, donc initié par des activistes à l'extérieur du pays, accueilli par des millions de femmes en Iran. Il y a aussi eu les filles de la rue de la Révolution. En 2017-2018, il y avait eu une contestation donc lancée par une jeune femme debout sur une armoire électrique d'un trottoir de Téhéran qui réalisait une sorte de performance symbolique avec son voile tenu au bout d'une canne. L'action se passait dans une rue qui porte le nom de Révolution. Pour endiguer ce type de mouvement, le président ultra-conservateur Ebrahim Raisi, élu en 2021, a durci encore davantage la répression à l'encontre des femmes ne portant pas le hijab, comme le code vestimentaire islamiste le leur ordonne. Alors elle a rappelé aussi que le féminisme islamique, c'est une invention occidentale et que la colonne vertébrale de l'idéologie islamiste, c'est le sexisme, la domination sur les femmes et l'accaparement de leur corps qui sont au cœur du modèle de fonctionnement islamiste. S'attaquer au voile, c'est chercher la liberté. Sans la liberté des femmes, la liberté de la société n'est pas possible. Et elle a rappelé aussi, vous l'avez entendu, que l'un des premiers actes de Khomeini a été d'appeler les femmes à porter le voile. Ensuite, le régime a continué à instaurer la terreur et a réduit la société civile au silence en mettant des gens en prison, en les exécutant. Alors aujourd'hui, qu'attendent les activistes iraniennes comme Shala Shafiq et d'autres nombreux activistes qui sont réfugiés à l'étranger? Elles attendent une mobilisation internationale. C'est le cas aussi de Mariam Namazieh. Mariam Namazieh qui a créé Ex-Muslims en Grande-Bretagne, dont l'objectif est de lutter pour la liberté, la défense de la laïcité, la fin des lois et traditions religieuses et culturelles misogynes, de lutter contre le voilement, de lutter contre la ségrégation sexuelle, contre le trafic prostitutionnel et toutes les violences machistes. Voilà, donc je vais parler un petit peu du coup de Mariam Namazieh et de ce qu'elle dit aussi. Elle dit que la solidarité des femmes et des hommes du monde entier peut contribuer à mettre fin une fois pour toutes à cette théocratie du 21e siècle. Le féminisme d'aujourd'hui doit être aux côtés des femmes iraniennes et contester la misogynie islamique dont le voile est un pilier, s'il veut être pertinent dans cette lutte cruciale. Voilà, je suis allée voir aussi un peu ce qu'elle fait sur les réseaux. Et donc tout récemment, elle a dit que la révolution des femmes en Iran est un des mouvements anticléricaux de notre ère. Elle a rappelé aussi qu'il y a 40 jours, depuis que Sarinaz Melzadeh a été tuée par le régime et que les élèves de sa classe, je voulais traduire parce qu'elle écrit en anglais, donc les élèves de sa classe ont placé sa photo sur le tableau blanc au lieu du tableau habituel de Khomeini, le dictateur. Ensuite, les élèves ont écrit des messages. Un qui dit « le printemps arrive, nous t'entendons ». Sarina avait 16 ans quand elle a été frappée à mort par le régime islamique d'Iran. Donc je disais, ces activistes comme Shala, comme Mariam appellent toutes les féministes françaises à réagir. Pour l'instant, malheureusement, on est encore loin du compte. Il y a des propos insupportables qui sont apparus. Bon, par exemple, pour en citer certains, comme Sabrina Oise, qui est une militante entre guillemets décoloniale, qui se présente comme un gilet jaune antiraciste, antifasciste, qui a osé dire « Derrière cette fascination pour les musulmanes qui décident d'enlever leur voile en Iran, il n'y a pas que de jolis sentiments, il y a aussi l'esprit du colon qui vit dans ces scènes de dévoilement volontaire, une renonciation au statut de femme musulmane et de femme du Sud. » Voilà ce qu'elle écrit sans honte, donc, face à toutes celles qui risquent leur vie en Iran. Moi, je dirais que l'esprit du colon, c'est elle, et que le racisme, c'est elle. Puisque les femmes de culture musulmane se battent, et ont le droit de se battre pour leur liberté, et contre les dogmes religieux. Donc, l'attitude des Occidentaux suscite la colère des Iraniennes. Donc je cite encore Mariam Namazieh qui dit « La clé de tout sera de faire pression sur les gouvernements occidentaux pour qu'ils mettent fin à leur soutien et à leur relation avec le régime islamique d'Iran. » Donc Ibrahim Raisi, qui se trouvait récemment à New York pour s'exprimer devant l'Assemblée générale des Nations unies, en est un bon exemple. Il est responsable du meurtre de Mahsa Amini et de beaucoup d'autres, y compris de crimes contre l'humanité, de disparitions forcées, de tortures. Il devrait être arrêté et non être le bienvenu. Rappelons qu'en 1988, Raisi était un des membres de la commission de la mort qui a condamné à mort 4000 prisonniers politiques iraniens. Et ça, c'est Shafik qui le dit, il devrait être poursuivi comme un criminel. Et pourtant, Macron l'a rencontré au même moment à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, au sujet du dossier du nucléaire iranien, une entrevue qui reste en travers de la gorge des manifestants. Alors, peut-être l'issue de ce mouvement, faut pas être naïf, le régime ne va pas tomber d'ici 2 semaines, car on fait face à une dictature religieuse qui est prête à tout pour se maintenir en place. Mais il faut soutenir ces manifestations qui permettent un pas de plus vers la liberté. Il y aura une prochaine fois et les protestations seront encore plus radicales. Alors, je vais vous lire du coup aussi par rapport à aux féministes, enfin soi-disant féministes, qui racontent n'importe quoi et qui ne sont pas universalistes, un billet de Caroline Fourest que j'ai trouvé intéressant par rapport à ça et qui s'appelle Mahsa Amini et nous. Voilà, je vous le lis. Donc elle réagit à ces militantes-là. Il y en a une autre, par exemple, le genre de choses qu'on peut trouver, c'était sur France Inter, par exemple, Farida Kelfa qui a dit « Je crois qu'il y a une stigmatisation en France des femmes voilées qui les exclut alors que c'est une affirmation de leur identité, de même qu'en Iran, l'arrachage du voile est aussi un signe d'émancipation. » Alors voilà ce que dit Caroline Fourest, Mahsa Amini et nous. En Iran, des femmes brûlent leur voile pour vivre libre et se font tirer dessus. En France, des gamines se font bourrer le crâne pour que leur voile serve de bélier contre l'école laïque. Des chanteurs, des influenceurs, des paumés du raisonnement et même quelques journalistes américains vous expliqueront que c'est la même chose, qu'il s'agit dans les deux cas de lutter pour le droit des femmes à se vêtir comme elles veulent. Le monde crève de ses équivalences, vide comme la mort, de ce poison qui endort l'esprit critique et le soumet à toutes les propagandes. Comparer l'interdiction d'afficher signes religieux à l'école publique dans une démocratie laïque à l'obligation de porter le voile en tout lieu dans une dictature religieuse n'est pas seulement idiot, mais dangereux. C'est aussi bête que confondre un hijab et un chapeau de pirate parce que les deux sont noirs. Tous les voiles n'ont pas la même signification selon les lieux et les époques, mais tous ont une portée symbolique. Cette portée dépend du sens qu'on lui donne et de sa résonance dans une société. Ceux qui incitent les nouvelles générations à porter un voile le pensent clairement comme un drapeau. Que des femmes le portent sans le voir, sans y croire, et même pour d'autres raisons, c'est possible. Mais cela suppose d'ignorer ce que les intégristes ont fait de ce signe de ralliement. Un écriteau. Son message est-il moins radical en démocratie ? Tout au contraire, il est bien plus rétrograde de se voiler de son plein gré dans un pays libre et laïque que de porter le voile par obligation dans une dictature ou un pays non sécularisé. Lorsqu'une Égyptienne manifeste place Tahrir pour la démocratie en gardant un voile coloré sur la tête alors qu'elle vient d'une famille salafiste et qu'elle risque à tout moment d'être violée, son voile n'est pas intégriste. Il en va autrement lorsque des jeunes filles nées en France de mères qui portaient un bikini sur les plages d'Alger avant les années noires se voient convaincre de cacher leurs cheveux pour être de bonnes musulmanes. Avant de se prendre pour des martyrs si on leur demande de faire l'effort, de venir étudier à l'école publique avec l'esprit ouvert, le visage et les cheveux découverts. Loin d'être anodin, ce voile générationnel, volontaire sans être spontané, témoigne d'une régression. Quand il se double d'un désintérêt affiché pour les femmes afghanes ou iraniennes, il est en prime égoïste. Que risquent les filles qui viennent en voile à l'école publique? Une réprimande et une forte invitation à étudier dans le privé. Que risquent les afghanes? Ah, pardon, elles ne peuvent plus aller à l'école. Que risquent les iraniennes? Des coups de matraque, d'être arrêtées et violées ou de prendre une balle dans la tête. Voilà qui devrait mettre du plomb philosophique dans la tête de nos chères militantes du voile et de leurs alliés. Alors, heureusement, il y a des associations féministes, universalistes et laïques qui réagissent dans le bon sens. Donc, il y a forcément l'Assemblée des femmes, déjà, qui a invité Shala Shafik. Enfin, il y en a de nombreux autres. Il y a Femmes Solidaires, que je citerai, Oser le Féminisme. Et puis, il y a aussi la Ligue internationale du droit des femmes, qui, donc avec sa présidente Annie Sujet, que je connais, et qui lutte depuis longtemps contre le voilement, contre l'islamisme, pour la laïcité, etc. Et voilà, donc du coup, elle a réagi avec son association, la Ligue internationale du droit des femmes. Et voilà, elle a écrit en disant « Non, la liberté ne consistera jamais à exiger le droit de porter ce qui partout ailleurs est un symbole d'oppression des femmes. » Donc elle dit « La mort tragique de Mahsa Amini interroge une nouvelle fois sur l'apartheid sexuel et ses contraintes imposées aux femmes, notamment leur effacement, invisibilisation dans l'espace public. Au cœur de ce système, le port obligatoire du hijab, afin d'éviter la corruption qui pourrait naître de la présence simultanée d'hommes et de femmes dans un même espace. C'est ce que disait le président Rafsanjani en 1993 pour justifier la séparation radicale des sexes. » Dès 1979 en Iran, donc, cela s'est traduit par un statut de second rang pour les femmes, légitimant le tutorat masculin avec ce que cela emporte d'atteinte à leur dignité et liberté. Dans le passé, les Nations Unies ont condamné sans réserve l'apartheid racial, qualifié de crime contre l'humanité, et promulgué la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid. À la lumière des événements qui se produisent régulièrement en Iran, suicide par le feu, désertion d'athlètes, la dernière par exemple c'est Elnaz Rekabi, qui refuse de se voir imposer le voile, y compris pendant les compétitions, etc. Mais aussi de ceux qui se déroulent en Afghanistan, ce serait l'honneur de la France de proposer à l'Assemblée générale des Nations Unies que l'apartheid sexuel soit décrété crime contre l'humanité. Voilà, donc elle agit notamment au niveau des chartes olympiques pour ne pas accepter le voilement des femmes de la part des pays islamistes. Alors il y a aussi donc il y a eu une réaction du Parlement européen qui semble une bonne nouvelle puisque le Parlement de l'Union européenne a condamné la discrimination systématique des femmes en Iran et les responsabilités de la République islamique d'Iran, et demande de mettre un terme à la discrimination systématique à l'encontre des femmes dans tous les domaines. Voilà, donc il y a parmi des formulations importantes à signaler, donc on retiendra cette phrase, donc la discrimination à l'égard des femmes qui est qualifiée de systématique et de systémique. Donc c'est un texte du Parlement européen qui pourrait peut-être servir de référence justement pour les démarches à entreprendre afin que, bah, par exemple, ce que disait avec la Ligue internationale des droits des femmes, Annie Sujet, d'obtenir, de faire des demandes, par exemple, d'obtenir ce qu'elle demandait des Nations Unies, que le régime d'apartheid sexuel imposé aux femmes par la République islamique d'Iran, à travers l'obligation du port du voile, soit qualifié de crime contre l'humanité. Rappelons qu'il y a bientôt les prochains Jeux olympiques à Paris où vont participer de nombreuses sportives obligées de porter le voile par leur pays d'origine, dont l'Iran, et ça doit être l'occasion de s'appuyer sur la résolution de ce Parlement européen pour faire entendre cette revendication. Donc voilà, je vous mettrai aussi le site de la Ligue internationale du droit des femmes si vous voulez agir et soutenir cette initiative. Donc je vais faire une pause musicale avec une chanson, donc si je l'ai amenée, je suis en train de rechercher, voilà, dans ma playlist. Donc le Bella Ciao qui a été qui n'est pas le chant des partisans italiens. Au départ, c'était le chant des mondines, donc des femmes qui travaillaient dans les rizières et qui chantaient un chant de femmes, en fait. Voilà. Donc, faut le savoir, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, ce Bella Ciao des mondines a été reprise en version iranienne. Donc, je vais vous le faire écouter. گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم بونه خوشه یه خشم من و تو تشنه یه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا une petite pause musicale Glassworks de Philip Glass pour reprendre un peu mon souffle avant de reprendre. discussion sera féministe sur Radio Galère. Alors, donc je vous ai parlé de cette université féministe de l'Assemblée des femmes. Il y avait une autre table ronde très intéressante sur MeToo et les mythos du patriarcat, avec des super intervenantes. Donc Isabelle Alonso, militante féministe, romancière, chroniqueuse, qui a écrit un livre, Les vrais hommes sont féministes, qui est très chouette, donc je vous le conseille, mettre entre toutes les mains. Il y avait Léanig Bridou, journaliste à Mediapart, responsable éditoriale des questions de genre. Madeleine Da Silva, cofondatrice de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes. Et Anne-Cécile Melfer, présidente de la Fondation des femmes. Donc je ne vais pas pouvoir vous passer du son parce que le son que j'ai pris n'est pas très bon. Mais je vais aborder effectivement... revenir un peu sur MeToo, 5 ans après MeToo et à 3 ans du Grenelle, où nous en sommes. Donc, alors justement, je vais... excusez-moi, il y a un petit peu de bruit là à côté, ça me gêne. Voilà, je l'aurais dit parce que je suis en direct, donc voilà, c'est pas évident de se concentrer. Donc, qu'en est-il par rapport au féminicide 3 ans après le Grenelle ? Eh bien, il y a eu un bilan qui est sorti, qui a été publié le 26 août par le ministère de l'Intérieur, le bilan des morts violentes au sein du couple en 2021, et ce qui fait apparaître une hausse de 20% par rapport au nombre de féminicides de l'année précédente en 2020. Le document du ministère n'utilise pas le mot « féminicide », un mot qui n'est toujours pas entré dans la loi française. Mais les journaux qui ont relaté l'étude l'utilisent désormais. Cependant, ces journaux écrivent aussi que 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2021. S'ils écrivaient massivement que 122 hommes ont tué leur compagne ou ex, la formulation rendrait plus visible le phénomène de violence machiste qu'il s'agit de combattre. Alors je trouve que ça c'est important, de même que l'on parle de violence sexiste et sexuelle, et je trouve pas que ça dise vraiment de quoi il s'agit. Je préfère utiliser violence machiste. Et ensuite préciser si on parle après de violence sexuelle. Parce que, voilà, violence machiste, on comprend qui sont les auteurs des hommes et que c'est systémique. Voilà. Alors, dans le rapport, on peut lire que les victimes sont des femmes dans 85% des cas et les tueurs, appelés sobrement auteurs, sont des hommes dans 86% des cas. Près d'une femme sur trois, 32%, avait déjà subi des violences antérieures et 64% d'entre elles avaient signalé ces violences aux forces de l'ordre. Parmi ces dernières, 84% avaient déposé une plainte, mais 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. En moyenne, un décès a été enregistré tous les 2 jours et demi l'année dernière, contre 1 tous les 3 jours en 2020. En 2020, 102 féminicides avaient été enregistrés, 146 féminicides avaient été recensés en 2019, mais les violences sexistes et sexuelles avaient augmenté. Alors Anne-Cécile Melfer, qui est présidente de la Fondation des femmes, commente ces chiffres sur Twitter en disant qu'il aurait fallu redoubler les efforts. Il aurait fallu mettre plus de moyens, on attend toujours le milliard, nommer des ministres pour qui c'est important, voilà, gros problème, en faire une priorité politique continue et commencer par désigner le phénomène autrement. Cesser de parler de violence faite aux femmes, mais parler de violence machiste. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est aussi ce que justement dit Isabelle Alonso, dont je vous ai parlé, qui était à une des tables rondes, dans son essai. Dans son essai « Le coût de la virilité », Lucille Pétavin additionne plusieurs coûts de la violence masculine. Et ça, c'est très très intéressant de chiffrer. D'ailleurs, elle était aussi présente à une table ronde par rapport à ça. Une table ronde qui s'intitulait « Patriarcat rend l'argent ». Donc, Lucille Pétavin a écrit un essai qui s'appelle « Le coût de la virilité » et où, finalement, elle a réussi à chiffrer, puisque, évidemment, c'est des chiffres qui apparaissent nulle part. Donc, faut les chercher, on va dire. Elle a fait ce travail. Les hommes représentent 96% de la population carcérale. Les hommes représentent 83% des mises en cause par la justice. Ils représentent 84% des accidents mortels sur la route qui sont causés, par des hommes. En cause, une éducation et une culture faite d'injonctions à la domination pour les hommes, alors que les femmes ne sont éduquées plutôt à l'altruisme. Et d'ailleurs, si on éduquait les hommes comme des femmes à l'altruisme, eh bien, ça serait sans doute, les choses seraient différentes au lieu de les éduquer à la virilité de domination et de violence. Pour combattre ce fléau, il faut non seulement renforcer les moyens de la police et de la justice, mais aussi combattre l'éducation machiste. L'Espagne, qui s'est donné des moyens importants, a vu le nombre de féminicides baisser de 24%, pendant qu'en France, il augmentait de 20%. L'Espagne parle, elle, donc de violence machiste et combat un ennemi qui est bien mieux identifié que la France, qui parle de violence faite aux femmes, voilà. C'est très... faite aux femmes. Ou violence au sein du couple. Voilà, très, très complètement neutre. Vous passer aussi d'entendre Anne-Cécile Mayfair, juste par rapport à l'anniversaire du Grenelle. J'ai un enregistrement qu'elle a fait sur une radio. Il faut que je le retrouve. Voilà. Donc je vais vous faire écouter ça juste au milieu, pas tout, parce que c'est pas... Voilà.
Il est 7h21, en toute subjectivité, je suis ravie de retrouver...
Disait Françoise Héritier, ils n'existent. Explique qu'ils sont motivés par la misogynie, cette idée que les femmes... Grenelle, c'est l'absence de budget réel. Et une fois le soufflet de communication retombé, on s'aperçoit de l'étendue du chantier. Si on fait le bilan des principales mesures annoncées, les femmes victimes équipées de téléphones grave danger sont moins de 2%, sans parler des bracelets anti-rapprochement. Les places d'hébergement d'urgence ne sont pas suffisantes. 4 femmes victimes sur 10 sont recalées. Les armes à feu, toujours pas confisquées. Les enfants, pas d'éducation à l'égalité filles-garçons. Les ordonnances de protection, il faudrait les décupler. Et enfin, la justice ne veut pas entendre parler de tribunaux spécialisés et pourtant... À Montpellier, par exemple, en mai dernier, une cour d'assises a décidé le maintien de l'autorité parentale d'un père assassin. Il a pourtant tué de 3 balles sa femme et sa fille de 18 mois et il continue, depuis sa prison, à décider de l'avenir de ses 2 garçons. Alors on comprend qu'un politique n'a aucun intérêt à pointer ce qu'il a mal fait. Mais ce « je m'en foutisme » du résultat concret, Sandrine et moi, on a du mal à l'encaisser. Sandrine, ce qu'elle ne peut pas accepter, c'est de se dire que sa sœur est morte et que ça n'a rien changé. Si le registre épistolaire de mes chroniques l'année dernière n'a pas suffi à faire entendre ma colère, peut-être, en cette rentrée d'inter, ce coup de gueule fera...
Voilà, donc Sandrine, c'est une femme féministe qui lutte contre les féminicides. Voilà, alors... MeToo, qu'en est-il de MeToo ? Donc parlons des violences machistes sexuelles. Donc MeToo reste à faire, c'est aussi ce qu'écrit Anne-Cécile Mayfair dans une tribune. Le 5 octobre marquera les 5 ans de l'affaire Weinstein. Depuis, la brèche dans le mur du silence ouverte par le mouvement MeToo ne s'est jamais refermée. MeToo inceste, MeToo gay, MeToo politique, MeToo théâtre, chaque nouvelle mobilisation charrie d'innombrables témoignages. À l'heure où les excès supposés de MeToo alimentent la chronique, un bilan s'impose. D'abord, l'espoir. Dans le sillage de MeToo, une révolution s'opère, celle des victimes qui ont à l'unisson rompu le silence dans lequel les violences les enferment. Les organisations féministes qui alertent depuis des décennies sur l'ampleur et la gravité des violences sexistes et sexuelles ont enfin trouvé un réel écho. La société prend graduellement conscience de ce phénomène massif qu'elle traitait hier avec un indigent mépris. Dans l'entreprise, les médias, les familles, l'ignorance n'est plus de mise. Mais derrière l'espoir que MeToo suscite, quelle réponse politique ? Si l'on entend régulièrement fustiger le tribunal populaire, que seraient les réseaux sociaux, ou le risque pour la présomption d'innocence, dans la réalité, ce sont les victimes qui trouvent porte close quand elles demandent justice. Depuis 2017, les faits constatés de violences sexuelles ont augmenté de 82%. Mais passé la plainte, que se passe-t-il ? Faute de moyens, la police bâcle les enquêtes, la justice est débordée. Moins d'un agresseur sur trois fait l'objet de poursuites. Les procédures traînent. Il faut en moyenne 77 mois pour un premier jugement pour viol sur majeur. Quand elles ne sont pas classées, 80% des plaintes, ou abandonnées du fait de la prescription. Avec 732 condamnations pour viol en 2020, un record historiquement bas est atteint. Les chiffres disent d'eux-mêmes l'insupportable impunité des auteurs de violences sexuelles. Alors que 94 000 femmes majeures sont victimes de viols ou tentatives de viols chaque année en France. MeToo est un mouvement de victimes sans coupables. MeToo reste à faire pour résoudre le paradoxe d'une société convaincue d'avoir pris conscience de l'ampleur des violences sexuelles, mais qui n'en tire aucune conséquence pour ceux qui en sont les responsables. Depuis 5 ans, la Fondation des femmes alerte. MeToo a provoqué une demande très forte d'écoute et d'accompagnement qui pèse sur les associations de terrain. Celles-ci restent à ce jour sous-dotées et incapables de répondre à l'afflux de victimes dont elles sont les premières interlocutrices. Ainsi, les permanences d'écoute et d'accueil Viol Femmes Infoservices de l'Association contre les violences faites aux femmes au travail ou des centres d'information des droits des femmes et des familles reçoivent chaque jour plus de demandes sans que leurs subventions n'aient été augmentées suffisamment, laissant toujours plus de femmes sans solution. À cela s'ajoute le mépris pour ces professionnels qui n'ont pas vu leur salaire revalorisé lors du Ségur alors qu'elles étaient en première ligne quand les violences intrafamiliales se multipliaient durant les confinements. Cette double impéritie, une justice qui reste bras croisés et un État qui rechigne à soutenir les associations de lutte contre les violences, laisse les victimes seules. Plus grand est l'espoir, plus forte est la déception. MeToo reste au milieu du gué. Tout reste à faire pour qu'elle ne soit plus jamais seule. Voilà, alors je vais compléter avec ce qu'on dit aussi Nouvelle News, qui est un média avec un point de vue féministe que je vous encourage à lire. Donc elles disent que les dirigeantes d'associations féministes, justement, comme voilà Anne-Cécile Mailfer, là, qui vient de vous expliquer tout ce qui ne va pas. Par contre, elles disent que en Belgique, c'est beaucoup plus efficace pour condamner les agresseurs, en Belgique et aussi en Espagne. Donc, alors en Belgique, il y a des centres hospitaliers qui sont spécialisés dans l'accueil des femmes victimes de viol, qui permettent de procéder dans un même lieu à un examen médical, un entretien avec un psychologue, puis avec des policiers spécialisés dans un endroit sécurisant. Cela n'a rien à voir avec l'accueil des victimes qui est fait en France, où il faut parfois attendre 3 semaines pour avoir un rendez-vous médical. Et évidemment que si vous attendez 3 semaines, eh bien, les blessures et les traces de drogue du violeur auront disparu. Et en France aussi, le problème de parler à des policiers dans des espaces ouverts avec des va-et-vient constants autour. En Belgique, 50% des personnes accueillies portent plainte, alors qu'il n'y en a que 10% en France. Donc, pour pallier à tout ce manque de moyens, la Fondation des femmes a lancé une campagne de collecte de fonds. Donc, je vous encourage, je mettrai la référence, je vous encourage à aider cela, puisque tout cet argent sera collecté justement par rapport à... pour résoudre tous ces problèmes. Donc l'objectif, c'est lever 500 000 euros en attendant qu'un projet de loi de finances augmente les budgets des associations d'aide aux victimes, donc pour pallier à l'État, quoi. La campagne « Plus jamais seule » de la Fondation des femmes montre en creux le rôle essentiel des associations qui sont seules à même aujourd'hui d'écouter, d'accompagner les victimes et de les soutenir dans leur démarche, de les aider à se reconstruire psychologiquement après les violences subies, mais qui manquent terriblement de moyens. Voilà, je vais compléter aussi avec Francine Sporanda à propos de combien vaut la vie d'une femme en 2022. J'ai trouvé intéressant. Donc Francine Sporanda, donc journaliste féministe, qui a un site Révolution Féministe. Elle dit combien vaut la vie d'une femme en 2022. Eh bien, à propos, il y a une femme qui a sorti un livre sur les féminicides qui s'appelle Sandrine Bouchet. Et ce livre s'appelle « Elle le quitte, il la tue ». Et bien du coup, donc Francine Sporanda a lu ce livre et elle a fait des recherches statistiques pour comparer les crédits qui sont alloués à la lutte contre le terrorisme et ceux qui vont à la lutte contre les violences, comme on dit, les violences conjugales. Eh bien, le budget de lutte contre les violences conjugales est d'un peu plus de 6 millions d'euros en 2022, tandis que le budget consacré à la lutte contre le terrorisme a été de 9 milliards d'euros entre 2015 et 2020, soit 1,8 milliard par an. Voilà, donc 9 milliards par rapport à 6 millions. Le terrorisme ne fait que 263 victimes, non, a fait 263 victimes en 18 ans, entre 2000 et 2018, ce qui donne environ 14 victimes par an. Alors que la violence conjugale a fait, en fait, 2130 en 14 ans, en 2006, entre 2006 et 2020, soit 152 femmes tuées par an. Voilà. Donc, violence machiste, c'est 152 femmes tuées par an, et terrorisme, 14 victimes par an. On voit bien à quel prix est estimée la vie des femmes et quelles sont les priorités de ceux qui nous gouvernent. Le terrorisme tue des hommes, pas juste des femmes, et pour ceux qui sont au pouvoir, il est aussi vu comme une attaque à leur virilité. Des hommes de pays étrangers ou appartenant à des religions non européennes qui prétendent leur dicter leurs lois sur leur propre territoire. Ça, c'est inacceptable, tandis que les féminicides semblent être perçus comme des sortes de catastrophes naturelles contre lesquelles on ne peut rien. Alors, je vais faire une petite pause musicale avant de poursuivre sur ce bilan. Enfin, si on peut faire un bilan. Voilà, donc je vais faire une petite pause. This world today is a mess. Pour, voilà, je vais vous faire écouter ça. À tout de suite. What you do, what you say. Everybody knows it's only what you take, what you see, and what you hear. When it comes around again, it's not too clear. You say yes, they say no. Everybody's talking everywhere you go. You're trying to give another man a helping hand. Now he will take your kindness for a weaker span. Never do to others what they do to you. Try to find another way. What I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray. It's out of style. You get a step ahead. It takes 100 miles. An hour. What would I take? It's what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray. You know that's out of style. Get a step ahead. It takes 100 miles. Now you try to give another man a help and a hand. Will take your kindness for a weaker stand. Never do to others what they do to you. You better do it to them before they do it to you. What you do and what you say has a lot to do in how you live today. What you want and what you make. Everybody knows it's only what you take. Or now or what you see and what you hear. When it comes around again, it's not gonna be the same thing. Because you're gonna say yes, and they're gonna say no. And then everybody's gonna start talking and talking and blah blah everywhere you go. And you know something? You try to give another man a helping hand. You know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a weaker stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you. Forget it. It's gonna be some other kind of thing. So you try to give another man, now listen, a helping hand. He will take your kindness for. Never do to others what they do to you. I'm gonna try to do the best I can, baby, to sock it to you. You better try to give another man another kind of helping hand. Alors, je reprends donc la révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc j'étais en train de vous parler un peu du bilan de MeToo. Je vous ai parlé donc de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Meilfer, qui a fait un peu le point de ce qui ne va pas. Et là, je vais relayer aussi par rapport à la libération de la parole des femmes, oui, mais pas trop fort. Donc c'est un texte de l'Assemblée des femmes qui a été écrit par une militante de l'Assemblée des femmes que j'ai trouvé intéressant. Voilà, donc par rapport aux arguments qui sont développés par les contempteurs de MeToo, qui se trouvent être, on entend toujours parler de la présomption d'innocence et du tribunal populaire et des réseaux sociaux, etc. Voilà, donc voilà ce que dit cette militante, je trouve très juste. Disons-le une bonne fois pour toutes. La présomption d'innocence est nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Mais une fois que l'on a dit cela, on n'a encore rien dit. La présomption d'innocence ne met pas un terme à la réflexion. Elle n'en est au contraire que le point de départ. Et pourquoi ne pas aussi évoquer en contrepoint la présomption de crédibilité ? Comme dit précédemment, la police et la justice sont pour partie défaillantes dans l'accueil et le jugement des agressions sexuelles. D'une part en raison de dysfonctionnements systémiques dans ces institutions, d'autre part parce que la charge de la preuve est très difficile à fournir dans ce domaine. Dès lors, il faut déplacer le regard du judiciaire vers les corps sociaux. Une direction, une entreprise ou un parti politique au fait d'agissements immondes de la part de ses membres, agissements connus, n'est pas obligé d'attendre le jugement de la justice pour agir. D'autant plus qu'en France, plus que dans tous les autres pays occidentaux, les longueurs des procès tendent à désespérer les victimes. Donc effectivement, on assiste à un espèce de backslash hein, qui est apparu contre les femmes qui ont osé prendre la parole avec ses arguments sans arrêt de la cette histoire de présomption d'innocence qui ne serait pas respectée, etc. Donc prenons le cas Patrick Poivre d'Arvor qui s'inscrit dans le mouvement MeToo Media. L'émission de Mediapart du 9 mai 2022, laquelle donne la parole pendant 2h30 à 20 femmes victimes de l'ancien présentateur, est à ce titre éclairante. Patrick Poivre d'Arvor est présumé innocent, mais d'après ces femmes, tout le monde savait. Tout le monde savait que PPDA avait des comportements odieux auprès de ses jeunes collègues féminines. Tout le monde savait que des dizaines de femmes avaient au cours des années été victimes de violences sexuelles et sexistes de la part du présentateur du 20h. Et pourtant, l'un des les arguments avancés par les différentes directions, outre le sempiternel « c'est la galanterie française », consistait justement à dire qu'aucune enquête judiciaire n'entérinait officiellement sa réputation de prédateur sexuel. Dans cette affaire de PPDA, on constate les effets de la libération de la parole des femmes. En février 2021, l'écrivaine Florence Porcel dépose courageusement une plainte pour viol contre PPDA. Cette accusation rendue publique, d'autres femmes prennent petit à petit la parole pour dénoncer les exactions ignobles dont elles aussi ont été victimes. Grâce à ces témoignages, PPDA n'est actuellement plus présentateur d'aucune émission. Là où la justice doit toujours suivre son cours, la libération de la parole permet à minima de mettre les dirigeants face à leurs responsabilités. Alors, une autre attitude récurrente des masculinistes, c'est l'abjecte hypocrisie vis-à-vis des violences sexuelles. En France, tout le monde est d'accord pour dire qu'un homme qui viole une inconnue dans une ruelle sombre, c'est infâme. C'est d'ailleurs la représentation courante du viol dans l'imaginaire collectif. 51% des Français pensent que l'espace public est le lieu où une personne risque le plus d'être violée. Mais la réalité du viol, c'est pas du tout ça. Et ça se limite surtout pas à cette image caricaturale. Elle fait fi notamment des violences familiales ou conjugales. Rappelons que 91% des cas d'agression sexuelle, eh bien, l'agresseur est connu de la victime. Dans 47% des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui est coupable. Les masculinistes sont prompts, dès lors qu'un viol ne correspond pas à l'image caricaturale présentée ci-dessus, à euphémiser les violences, voire à les excuser. Qui n'a jamais entendu à un repas de famille ou lors d'un verre avec des amis des hommes dire que ce n'est pas un viol lorsqu'un homme force sa conjointe à avoir un rapport sexuel avec lui ? N'est-ce pas une réminiscence du vieux devoir conjugal, toujours présent dans l'imaginaire collectif ? Il y a eu un sondage d'Ipsos en février 2019 qui est assez édifiant, où justement on apprend que sur 16% des interrogés, ils considèrent qu'une femme ayant eu une attitude provocante en public est en partie responsable de son viol. Et dans ce sondage, il y avait aussi que si une femme flirte avec un homme mais ne veut pas avoir de relation sexuelle avec lui, 27% des interrogés estiment que la responsabilité du violeur est atténuée. et 13% voient la femme comme en partie responsable du viol. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à la culture du viol. Et je dirais que ce qui ne nous aide pas du tout, c'est aussi la pornographie, qui est un outil terriblement destructeur de tous les efforts qu'on peut faire pour lutter contre la violence sexiste et sexuelle. Voilà. Donc, mais j'y reviendrai. Enfin, je ne sais pas si j'aurai le temps, en fait, d'aborder aussi l'enfer du porno. J'ai une actualité sur ça. Donc, avant, je vais vous parler de revenir aussi sur le système judiciaire défaillant. Donc, effectivement, c'est un sujet vraiment qui me révolte particulièrement. Donc, l'impunité face aux violences, notamment sexuelles, et ce qui se passe quand la justice se rend complice de la culture du viol et des agresseurs ou violeurs en se retournant contre les femmes et les filles victimes d'un mari ou d'un père. Donc, ce qui est particulièrement révoltant, ça arrive, c'est les nombreux cas de mères protectrices qui ont voulu protéger leur enfant, très souvent une fille, de violences incestueuses et qui se retrouvent désenfantées, la garde étant confiée soit à l'ASE, soit carrément au père. Voilà, donc à ce propos, je vais relayer une tribune enfin, qui a été écrite et qui révèle il y a eu de nombreux cas comme cela. Et là, il s'agit du cas donc de l'avocate qui s'appelle Pauline Rongier et qui s'occupe donc du cas d'une affaire de Pauline Bourgoin. Voilà, je vais le faire tout de suite, vous expliquer. Donc Pauline Rongier, c'est une avocate et elle s'occupe d'une affaire donc où Louise est une petite fille qui a 2 ans et demi. Et qui, après avoir révélé des faits d'inceste commis par son père, a été arrachée à sa maman, qui, pour la protéger, avait saisi le juge des enfants. Et donc Louise a été placée à l'ASE. Donc Pauline Rongier, l'avocate, se bat aujourd'hui aux côtés donc, de cette maman, qui est Pauline Bourgoin, pour que Louise retrouve sa vie. Ils sont ainsi beaucoup trop nombreux, les enfants victimes coupés de leurs parents protecteurs par des institutions qui, au lieu de les croire, les mettent en danger. Donc, cela consiste en un placement abusif, un déni, ça consiste surtout en un déni systématique des situations de violence conjugale et incestueuse. Et comme Pauline, elles sont des milliers de mères à subir la poursuite des violences conjugales et incestueuse, rajouterais, à travers la destruction du lien avec leur enfant. Les conséquences pour le développement des enfants sont dévastatrices. Donc, il y a eu une tribune donc, qui a été écrite pour soutenir cette maman et soutenir son avocate, et la défense de cette maman par son avocate. Donc, cette tribune, je mettrai aussi la référence dans le podcast. Donc, elle a été signée par certaines personnalités, notamment Laurence Rossignol, et aussi des défenseuses et défenseurs féministes ou des défenseuses et défenseurs de l'enfance, notamment Emmanuel Pied aussi du collectif féministe contre le viol, mais cette tribune n'a pas été, je pense, assez relayée, n'est pas assez connue. Voilà pourquoi je vous en parle. Donc voilà ce que le texte de la tribune dit. Nous sommes psychologues, psychiatres, élus, éducatrices, éducateurs, associations de protection de l'enfance et des violences faites aux femmes, professionnels de la petite enfance, avocates, avocats, citoyennes, citoyens. Et nous demandons une prise de conscience et une réaction face à l'urgence d'un fléau sociétal qui brise la vie de milliers d'enfants. Nous ne nions pas l'existence de schémas d'instrumentalisation de l'enfant par la mère ou le père. Nous déplorons que ce dernier, bien que marginal, se retrouve quasi systématiquement utilisé par le père dans des situations de violence conjugale après une séparation. Les organismes de protection de l'enfance et de femmes victimes de violences expriment leurs inquiétudes face à l'augmentation de ce type de dossier et leur impuissance pour concrètement protéger les enfants. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a de nombreux pères qui utilisent une stratégie d'inversion qui malheureusement fonctionne auprès d'une justice bien trop patriarcale. Donc cette stratégie, c'est... il y a un diminutif, enfin un acronyme qui s'appelle DARVO, et ça signifie la stratégie qui consiste à nier, à attaquer et à inverser les rôles de victime et d'agresseur. C'est une stratégie qui est malheureusement couramment utilisée par les auteurs de violences conjugales et qui est connue donc sous le nom de DARVO, qui est un acronyme anglais qui désigne le fait donc de nier, attaquer, inverser les rôles de victime et d'agresseur. Cette stratégie commence à être mise en lumière dans de nombreux pays pour identifier la manipulation des agresseurs. De plus, de nombreuses victimes de violences conjugales ont fait l'objet de plaintes calomnieuses déposées par leur agresseur auprès des services de police et de protection de l'enfance. Ainsi, la situation de violence généralement de l'homme sur la femme se retrouve résumée en un conflit parental. Les auteurs de violences conjugales cherchent souvent, après une séparation, à poursuivre le contrôle qu'ils exerçaient sur leurs victimes du temps du couple en se servant des enfants pour l'atteindre. Une stratégie courante des agresseurs consiste à accuser la victime d'aliénation parentale afin de discréditer la mère dans les procédures de garde d'enfants. Donc le concept d'aliénation parentale, c'est un concept dont j'ai déjà maintes fois parlé, parce que malheureusement, il revient toujours. Et pourtant, c'est un concept qui ne repose sur aucune donnée scientifique, qui a malheureusement été inventé dans les années 1980 par Richard Gardner, qui est un militant des droits des hommes et psychiatre controversé. D'ailleurs, il faut souligner que ce Richard Gardner avait déclaré sans ambiguïté dans ses ouvrages être pour la pédophilie, ou la pédocriminalité et pour l'inceste, en demandant que ces deux pratiques ne soient plus condamnées. Donc ce concept qu'il a inventé est trop souvent évoqué dans les tribunaux. Quand il n'est pas clairement évoqué, parce que normalement c'est décrié et normalement ça devrait même pas exister, ça a été déjà dénoncé ce concept-là par rapport à la justice. Donc on pensait en fait que c'était fait, qu'on l'entendrait plus ce concept. Eh bien malheureusement non. Il y a quand même des tribunaux qui l'invoquent, ou alors ils le remplacent par un autre concept qui est tout à fait semblable, qui est la théorie de la fusion, qui servait même en fait entre soi-disant la mère et son enfant. Et cette théorie donc qui est orchestrée par les agresseurs afin que les professionnels psychojudiciaires qui les entourent soient amenés à penser que les symptômes et les déclarations de l'enfant co-victime ou victime directe de violence ne serait due qu'au lien d'amour, donc de fusion, entre la mère et son enfant. Et que la mère, donc dans le concept d'aliénation parentale qu'a inventé ce Richard Gardner, eh bien, la mère manipulerait l'enfant afin de s'en prendre au père, en fait. Voilà. Donc certains manuels circulent même au sein des associations de pères pour dicter la méthodologie afin de faire perdre tout lien entre l'enfant et sa mère avec l'aide des institutions, tout en infligeant des violences psychologiques irréversibles sur l'enfant pour y parvenir. Alors voilà, donc il y a certainement dans tout ça un problème de moyens qui manque à la justice. La justice n'a pas plus les moyens, semble-t-il, de remplir son rôle et fait l'objet de remises en question multiples, mais un problème de moyens, mais cela n'explique pas tout. Voilà, donc l'affaire, donc je rappelle cette affaire, donc Pauline Bourgoin, c'est donc un exemple criant représentatif d'un fléau sociétal qu'il est urgent de traiter. Voilà, j'avais recensé donc de nombreux autres cas similaires dans un dossier. Voilà. Alors, je regarde si... Donc, je vais... je vais en finir avec ça. J'ai trouvé ce que je voulais vous dire aussi. Vous parlez aussi, donc, à propos de ce retour de backlash, en fait, comme on dit en anglais, par rapport à la parole des femmes, etc., par rapport à MeToo, dans les médias aussi, les médias ne sont pas en reste. c'est intéressant de voir à quel point les médias peuvent nourrir le sexisme. Donc il a le journal, enfin le site Nouvelle News en fait, dont je vous ai parlé, qui est un média féministe en fait, qui m'a appris ce problème donc de médias qui nourrissent le sexisme, notamment avec deux exemples. Donc en ce moment, il y a une autrice qui a écrit un livre qui s'appelle La Petite Menteuse, qui est dans tous les médias. Et puis il y a eu aussi Mathilde Seigné qui défend son roman Polanski, son mari pardon, qui défend son mari Roman Polanski. Et du coup, les idées qui sapent les avancées féministes reprennent place dans l'opinion. Donc c'est un exemple de deux fables antiféministes qui se propagent à grande vitesse sur les ondes. Leurs autrices ne veulent pas paraître mal intentionnées, mais elles donnent une matière en or à ceux qui aiment instiller dans l'opinion des idées antiféministes. Donc l'autrice qui s'appelle Pascal Robert-Diard, il était une fois une menteuse. Donc Pascal Robert-Diard, c'est une chroniqueuse judiciaire au journal Le Monde qui passe d'émissions de télé à interview radio ou presse-papier pour parler de son premier roman qui s'appelle La Petite Menteuse chez l'Iconoclaste. Son éditeur présente le livre et son personnage principal, Lisa, ainsi. Donc Lisa, c'est une adolescente qui a une sale réputation au lycée et qui en souffre. Puis, Lisa n'a plus d'issue pour sortir de son adolescence troublée et violente. Acculée, elle finit par avouer, je cite, qu'un homme a abusé, je recite, d'elle. Alors déjà, le vocabulaire avouer, hein, ça devrait être employé pour signifier qu'une personne reconnaît une faute, et pas quand elle est victime. Ensuite, le vocabulaire abuser, eh bien, on abuse éventuellement du chocolat, mais un viol, c'est un viol. Suite de la description, les soupçons se portent sur Marco, un ouvrier venu faire des travaux chez ses parents. En première instance, il est condamné à 10 ans de prison. Puis, l'adolescente avoue à son avocate qu'elle a menti, et cette dernière commence le procès le plus périlleux de sa carrière, défendre une victime qui a menti. Alors, que penser ? Eh bien, ce roman, c'est peut-être un chef-d'œuvre de littérature possible, mais la mécanique qui pousse l'adolescente à mentir est probablement bien analysée, peut-être, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est l'impact de la promotion du livre sur l'opinion qui entend ad nauseum la petite musique de la plaignante pour viol, forcément menteuse. L'autrice est en lice pour le Goncourt et d'autres prix littéraires. Le roman est inspiré d'une histoire vraie qui est puisée dans les 2 à 4% de situations dans lesquelles la personne portant plainte pour viol ment. Voilà, donc Pascal Robert-Diard a voulu décortiquer la fabrique de la victime idéale et du coupable idéal. Des processus analysés dans moult fictions ou documentaires qui pointent les préjugés construits entre autres par les médias. Sur le thème du coupable ou de la victime idéale, Pascal Robert-Diard, elle aurait pu bâtir un roman autour d'une histoire de victime de viol injustement condamnée pour dénonciation calomnieuse et écrire le roman d'un grand violeur menteur à la place de petite menteuse. Mais elle n'aurait sans doute pas rencontré le même succès. Si elle avait bâti un roman autour d'un violeur menteur, elle aurait illico été cataloguée féministe victimaire, inapte à la grande littérature. Avec La Petite Menteuse, elle est du bon côté, du côté de ceux qui racontent la fable des accusés de viol présumés innocents et des plaignantes présumées menteuses, du côté de ceux qui racontent cette fable dans les médias et influencent l'opinion publique. Sur France Inter, le 19 octobre dernier, l'autrice déclarait « Quand l'opinion publique envahit les prétoires, elle fait des dégâts considérables. » Mais cela fait bien longtemps que l'opinion publique envahit les prétoires, les commissariats de police et les gendarmeries. Pas l'opinion MeToo. Une opinion publique nourrie de ce qu'on appelle désormais la culture du viol, cette fable qui transforme les victimes en coupables et les agresseurs en victimes. MeToo depuis à 5 ans. Les chiffres des condamnations pour viol montraient que la libération de la parole des femmes n'avait pas vraiment influencé les prétoires. 0,6% des viols déclarés par des personnes majeures ont fait l'objet d'une condamnation. 0,6%. Les victimes de viol n'avaient vraiment pas besoin d'un tel roman pour ne pas être entendues. Alors, deuxième fable antiféministe qui plaît beaucoup donc, dans les médias, c'est la fable de « Il était une fois un Apollon » de « Il n'avait besoin de violer personne ». Donc c'est la deuxième fable sur le viol là, qui a été propulsée il n'y a pas bien longtemps dans bien des titres de journaux grâce à Mathilde Seigné, épouse du réalisateur Roman Polanski. Elle était invitée à une émission 7 à 8 sur TF1 le dimanche 16 octobre pour parler de son ouvrage carrément. En plus, elle a écrit un bouquin, Une vie incendiée, qui donne sa version de l'affaire Polanski. Et qu'est-ce que c'est cette histoire ? Eh bien, c'est une espèce d'ode au viol, voire à la pédocriminalité, sur les ondes reprises dans moult journaux. Donc je la cite, « Quand j'ai connu mon mari, toutes les jeunes filles voulaient coucher avec lui. C'était un truc de dingue. Je pense qu'il n'avait besoin de violer personne. » Voilà, c'est ce qu'a déclaré cette actrice de 56 ans, mariée avec ce réalisateur de 89 ans. Le fait qu'il soit poursuivi par la justice des États-Unis pour avoir en 1977 violé, drogué une adolescente de 13 ans, un détail sans doute pour elle, 13 ans, alors, voilà ce qu'elle a dit. Alors elle a dit, par rapport à ça, 13 ans, c'est jeune bien sûr, mais c'était une époque très permissive. Le rapport à l'âge a aussi beaucoup changé. À l'époque, on jouait la Lolita, on la célébrait. Donc moi, ayant commencé ma carrière de mannequin à 14 ans, ça n'était pas une histoire qui me choquait, dit-elle. Voilà, c'est ainsi que l'écume des médias nourrit l'opinion de sexisme. Ah ben, j'ai pas vu l'heure passer, en fait. C'est 14h, donc je vais terminer là-dessus. Je vais vous dire à la semaine prochaine, si tout va bien, ou sinon, à dans 15 jours. Nous qui sommes passés, les femmes.